Le journal, présenté par Mathieu Laurent.
Bonjour à tous. Le Shangri-La Dialogue, Agora, censé apaiser les tensions dans la zone Asie-Pacifique, est un sommet marqué cette année par les tensions on ne peut plus vives entre Washington et Pékin. Karine Hutton suit la réunion de Singapour. Nous savons qu'avoir les capacités de gagner une guerre est le meilleur moyen de les éviter. Déclaration du chef du Pentagone qui vient s'ajouter aux charges de Donald Trump contre l'Inde, le Mexique, le président qui ouvre quantité de fronts commerciaux. Décryptage avec l'invité de ce journal, Corentin Célin, spécialiste des États-Unis. Un autre sommet de première importance, celui de l'Organisation de la coopération islamique à la Mecque, avec en exergue les mots du prince héritier saoudien Mohammed Ben Salman qui condamne la décision de Washington de reconnaître Jérusalem comme capitale d'Israël. Précision de Christian Chesneau. Puis la Bulle Écho de ce samedi, signée Marie Viennot, s'attarde sur les 10 ans du RSA et sa disparition prochaine. La stabilité de la mer de Chine à l'océan Indien, colossal enjeu qui vaut depuis 2002 un sommet qu'accueille traditionnellement Singapour. L'équation est la suivante. Stabilité égale bonne marche du commerce avec pour volume rien de moins que 75% des produits manufacturés. Rien de stable cette année, l'affrontement sino-américain domine les débats, en témoignent les déclarations du chef du Pentagone. Singapour, Karine Hutton.
Le Shangri-La Dialogue s'est ouvert hier soir avec la crainte que les mauvaises relations sino-américaines occultent tous les autres dossiers. Côté chinois, la délégation est particulièrement importante, avec la présence de militaires plus gradés que d'habitude. C'est seulement la deuxième fois en 18 ans que Pékin y envoie son ministre de la Défense, et aussi de militaires plus nombreux dans toutes les sessions. Une stratégie jugée agressive par certains, mais pour Meian Ovens, chercheuse de l'IISS spécialisée sur la défense chinoise, c'est un moyen pour Pékin, qui se sent marginalisé globalement, de faire entendre sa version des faits.
Ça a surpris Pékin d'être la cible de critiques et d'attaques en 2018 et 2019, pas seulement sur le projet de la nouvelle route de la soie ou la militarisation de la mer de Chine du Sud. Il y a eu aussi la guerre commerciale de la 5G avec Huawei. Donc la Chine va vouloir donner sa version. C'est une stratégie pour contrer ces menaces qui s'élèvent dans le monde entier et qu'ils appellent la mentalité de la guerre froide.
Côté américain, le secrétaire de la Défense par intérim Patrick Shanahan a rencontré son homologue chinois en marge du sommet hier, et tout en tenant un discours très ferme à propos de la Chine ce matin, il a insisté sur la nécessité de construire des règles ensemble et de s'y tenir, maintenant ainsi le dialogue ouvert. Réponse de Pékin demain avec le discours très attendu du général Wei, le ministre de la Défense chinois.
Bonjour Corentin Célin.
Bonjour.
Merci d'avoir accepté notre invitation, spécialiste des États-Unis, professeur en classe préparatoire. Corentin Célin, quelle lecture faire des reproches articulés par Patrick Shanahan qui accuse la Chine d'éroder, je cite, la souveraineté de ses voisins?
Oh, c'est une lecture assez simple. Il faut d'abord rappeler que Patrick Shanahan parle vraiment pour l'administration, puisque même s'il est encore par intérim, il a été nommé à titre définitif par Trump. Il doit être encore confirmé par le Sénat. Donc c'est vraiment la voix de l'administration Trump. Et d'autre part, on retrouve vraiment la ligne choisie par Donald Trump lui-même depuis un peu plus d'un mois, c'est-à-dire une fermeté absolue envers la Chine, que Trump soupçonne de surcroît d'encourager en sous-main la Corée du Nord à ne pas négocier avec les États-Unis, donc une fermeté à la fois commerciale, mais aussi une fermeté stratégique par rapport à des avancées jugées malvenues de la Chine en Asie du Sud et en Asie du Sud-Est. Les États-Unis veulent contenir la montée en puissance de la Chine, ça c'est vraiment quelque chose de très important pour Donald Trump, et ça s'est accentué encore depuis un mois, et l'échec pour le moment des négociations commerciales entre les deux pays.
Alors depuis un mois, on compte fin du libre accès américain pour les produits indiens, c'est tout à fait récent. Les droits de douane imposés crescendo aux importations mexicaines. Est-ce que ce ne serait pas the art of the deal, mais au-delà de la caricature?
Oui, il y a effectivement depuis quelques jours une véritable irrationalité de la part de Donald Trump. Cela a été souligné y compris par des élus républicains, c'est une grande première, avec cette hausse inattendue des droits de douane sur les importations en provenance du Mexique. Irrationalité pourquoi? D'une part pour le motif invoqué, c'est-à-dire il faut que le Mexique devrait aider davantage les États-Unis à contrôler l'immigration, et deuxièmement, le moment moment choisi, puisqu'il faut rappeler que le Congrès américain doit ratifier le nouveau traité de libre-échange avec le Mexique, et tout est remis en cause par ces tarifs douaniers punitifs annoncés. Vous le disiez, en plus, il y a aussi des mesures commerciales contre l'Inde, plus les mesures commerciales que j'évoquais contre la Chine, ce qui signifie que les États-Unis sont en train de lancer des guerres commerciales contre tous leurs principaux partenaires, hein, au moins, en tout cas avec la Chine et le Mexique, deux de leurs trois principaux partenaires commerciaux, le tout en même temps, et même des élus républicains de premier rang, on peut penser au sénateur Grassley de l'Iowa, commencent à remettre en doute, j'allais dire, la rationalité des décisions présidentielles.
Corentin Célin, les bourses étaient en chute hier, elles ne comprennent pas la manière qu'a Trump d'additionner les fronts commerciaux, avec des résultats économiques, il faut le souligner, qui sont moins bons que prévu, nettement moins bons que prévu.
Alors, effectivement, ce qui surprend, c'est que Donald Trump a toujours un grand succès, hein, dans son bilan, c'est la croissance économique et le quasi-plein emploi, mais il les met en danger à cause de ces guerres commerciales douanières entamées sans aucune suite logique. Des instituts, hier, ont déjà revu à la baisse leur prévision de croissance si les tarifs douaniers contre le Mexique et ceux contre la Chine continuaient à être mis en application. Et par ailleurs, c'est très important, hier on a appris que le déficit commercial des États-Unis continuait à croître de manière très importante avec, il faut le noter, une baisse des importations états-uniennes, mais une baisse encore plus forte des exportations. Donc on voit que ce qui était l'objectif de Donald Trump, hein, qui dit toujours que les États-Unis se font avoir dans le commerce international et qu'il faut donc diminuer le déficit commercial des États-Unis, eh bien cela ne fonctionne pas pour le moment. Le déficit commercial des États-Unis continue à croître à un rythme quand même très soutenu.
D'un mot, d'un tout dernier mot, Corentin Célin, Donald Trump a annoncé qu'il allait justement repartir à la course à la Maison-Blanche le 18 juin prochain. Est-ce qu'il y a un lien entre ces fronts commerciaux en quantité et cette annonce prochaine ?
Ah, on peut parler d'un Donald Trump qui est ferme sur ses pattes, ferme sur ses bases. Hein. Il annoncera officiellement sa candidature en Floride, un État extrêmement conservateur désormais, qui a un gouverneur très conservateur, qui a deux sénateurs conservateurs. Et il va en Floride pour dire, voilà, j'ai fait ce que j'avais promis, c'est-à-dire du protectionnisme pour protéger les emplois, pour faire revenir les emplois industriels. Et par ailleurs, je mène la guerre à l'immigration. Et là, en Floride, c'est vraiment insister sur ce point de l'immigration auprès des hispaniques cubains de Miami, conservateurs, qui sont une de ses principales bases électorales.
Merci à vous, merci Corentin Célin d'avoir accepté notre invitation. Un autre sommet qui se tient lui à la Mecque mêle intérêts économiques et sécurité, celui de l'Organisation de la coopération islamique, le CI, dont l'un des membres pèse lourd, l'Arabie Saoudite. Le prince héritier Mohamed Ben Salman s'est dit inquiet, lui, des menaces contre la navigation et les approvisionnements du marché international en pétrole, non sans cibler l'Iran. Autre positionnement qui cette fois s'adresse aux États-Unis et ses alliés, positionnement au sujet de Jérusalem que Washington a décidé de reconnaître comme capitale d'Israël. Bonjour Christian Chesneau.
Bonjour.
Christian, plusieurs sensibilités se côtoient au sein de l'OCI à ce sujet.
Écoutez, officiellement, le sommet islamique de la Mecque apporte son soutien aux Palestiniens et dénonce le transfert de l'ambassade américaine à Jérusalem. Voilà pour la rhétorique, mais en coulisses, les pays arabes ne sont pas du tout sur la même longueur d'onde. Il y a d'abord les monarchie du Golfe qui pousse à une normalisation israélo-palestinienne dans le sillage du futur plan de paix américain. Pour eux, l'ennemi ce n'est pas Israël, mais l'Iran. Les plus déterminés sont l'Arabie Saoudite et les Émirats Arabes Unis qui sont prêts à faire un gros chèque aux Palestiniens pour qu'ils acceptent des concessions territoriales. Signe de l'ouverture actuelle de ces pays du Golfe en direction d'Israël, le sultan Qaboos d'Oman a reçu dans son palais de Mascate en octobre dernier Benjamin Netanyahou. Et puis, vous avez les deux pays qui ont signé un traité de paix avec Israël, c'est-à-dire l'Égypte et la Jordanie, deux pays qui collaborent avec l'État hébreu dans le domaine sécuritaire, mais qui sont inquiets du plan de paix américain, notamment le roi Abdallah II, qui redoute un règlement qui transformerait son royaume en patrie alternative des Palestiniens. Enfin, il y a les pays arabes qui incarnent une ligne dure, comme l'Algérie, l'Irak ou encore le Liban, dont la diplomatie est influencée par le puissant Hezbollah. Le chef du parti de Dieu, Hassan Nasrallah, a d'ailleurs déjà qualifié de crime du siècle le futur accord israélo-palestinien concocté par l'administration Trump.
Merci à vous, Christian Chesneau. Hier, Human Rights Watch appelait le gouvernement français, je cite, à ne pas sous-traiter la gestion des djihadistes français présumés à des systèmes judiciaires abusifs. Ils sont 7 en effet à avoir été condamnés à mort au terme de procès que le ministre des Affaires étrangères, Jean-Yves Le Drian, a qualifié d'équitable, ce qui fait bondir l'avocate Marie Dosé, qui défend les proches de djihadistes français. Elle était ce matin l'invitée de nos confrères de France Info.
Nous n'avons pas la même définition du procès équitable. L'avocat est présent, pourquoi ? Demander à mes confrères irakiens s'ils estiment qu'effectivement c'est un grand bonheur d'exercer les droits de la défense en Irak. Est-ce qu'on peut imaginer ce que ça veut dire que d'arriver dans un procès et de découvrir à l'audience un dossier ? Enfin, c'est pas comme ça qu'on travaille, mais c'est pour ça que moi j'irai jamais en Irak défendre un ressortissant français, parce que je ne suis pas là pour légitimer un procès qui n'est absolument pas équitable. Pour qu'on puisse ensuite dire, comme monsieur le ministre, y a pas de problème, y a un avocat, il est là, qui ne sert absolument à rien, qui n'a pas accès à son dossier, et puis qui n'a pas pu s'entretenir avec cette personne dont on ne sait rien en réalité. Mmh. Donc, ils ont été livrés en février. Vous vous rendez compte que l'instruction, elle a duré 3 mois à peine ?
La position officielle de la France, c'est de refuser de la rapatrier, mais tenter en parallèle par voie diplomatique de leur éviter là-bas la peine capitale. Qu'est-ce que vous pensez de cette démarche ?
Elle est complètement contradictoire. J'ai pas de difficulté, moi, à ce qu'on m'explique que les faits perpétrés en Irak doivent pouvoir être jugés en Irak. Oui, mais attendez, on ne peut pas à la fois livrer des ressortissants français à l'Irak tout en indiquant qu'il ne faut pas qu'ils soient condamnés à mort. Enfin, excusez-moi du peu, mais le Haut Commissariat des droits de l'homme des Nations Unies n'a de cesse de répéter que les exécutions en masse perpétrées par la justice antiterroriste irakienne doivent être dénoncées. Ils ont même lancé un moratoire il y a de cela 18 mois, un an. Donc on ne peut pas les livrer tout en sachant qu'ils vont être condamnés à mort et en expliquant qu'on est contre la peine de mort. C'est un contrat de sous-traitance judiciaire qui pose quand même une vraie difficulté là.
L'avocate Marie Dosé avec Matteo Maestrachi.
La bulle économique. Marie Viennot.
Et aujourd'hui, la Bulle Éco revient sur les 10 ans du RSA et sa disparition prochaine.
Paye mon RSA.
Le revenu de solidarité active a été voté en décembre 2008, mis en œuvre le 1er juin 2019. Il est versé à 1 840 000 personnes et risque de se voir remplacé par un autre dispositif pour à peu près les mêmes raisons qu'il a lui-même remplacé le RMI, le revenu minimum d'insertion. Quand le RMI a été créé il y a 30 ans, il n'a jamais été question d'en faire un revenu inconditionnel. L'idée, c'était que ce revenu de 2000 francs à l'époque, 500 euros, permette de trouver une activité. Écoutez Michel Rocard, alors Premier ministre, quand il a défendu le RMI à l'Assemblée en 1998.
Le montant de l'aide sera insuffisant au regard du supportable, mais il offrira à tous ceux qui en disposeront une nouvelle chance d'échapper à la misère, une chance de retrouver sa place dans le monde des autres. C'est pourquoi le revenu minimum doit être étroitement lié à un effort d'insertion.
Chercher à s'insérer, retrouver un travail, donc, c'était déjà dans les obligations des RMistes. Mais leur nombre grandissant, il a bien fallu constater que le RMI, plus qu'un marchepied vers le travail, était avant tout un revenu de subsistance. Les politiques auraient alors pu considérer que ce revenu restait légitime pour réduire la pauvreté. Mais non, ils se sont dit, à droite comme à gauche, que ce RMI était mal fichu car il décourageait la reprise du travail. Alors, on a créé le RSA, le revenu de solidarité active, qui devait garantir que la reprise d'une activité, même minime, soit toujours plus avantageuse que l'inactivité. 10 ans plus tard, on constate que le nombre d'allocataires a augmenté depuis la création du RSA. Le coût du dispositif aussi, on est proche de 11 milliards d'euros. Mais ce n'est pas cet argument financier qu'a utilisé le président de la République en septembre dernier quand il a annoncé la fin prochaine du RSA au profit d'un revenu universel d'activité. Ce revenu ne serait pas universel, car toujours sous condition de ressources, mais il serait plus simple et surtout plus facile à toucher.
En fusionnant le plus grand nombre des prestations sociales, du RSA aux APL, nous pourrons enfin garantir un socle minimal de dignité à tous ceux qui doivent en bénéficier, en apportant enfin une réponse à la hauteur du non-recours au droit.
Un tiers des personnes qui pourraient toucher le RSA ne le demandent pas. C'est ça qu'on appelle le non-recours. Ce n'est pas nouveau et pas spécifique au RSA. La Caisse nationale des allocations familiales s'en préoccupe depuis les années 70 et en 2002, un observatoire des non-recours aux droits et services a été créé par des chercheurs à l'Université de Grenoble. Mais c'est seulement en 2011 que ce concept de non-recours a été diffusé dans les médias, justement à l'occasion d'un bilan fait sur le RSA. Un tiers de non-recours pour le RSA, le chiffre n'a pas changé depuis car il n'y a pas d'estimation plus récente. C'est toujours la même étude que l'on cite, une étude quantitative menée auprès de 15 000 foyers éligibles au RSA. Plusieurs rapports ont depuis recommandé d'affiner cette mesure et de publier des chiffres plus réguliers, mais c'est complexe de quantifier le non-recours car il faut évaluer le nombre de personnes éligibles à une aide, à une autre aide, puis croiser des fichiers. La fusion des aides annoncée par Emmanuel Macron n'est pas moins complexe à réaliser sur le plan organisationnel comme sur le plan financier. Le risque, bien sûr, c'est qu'il y ait des perdants. On estime à environ 3 milliards d'euros l'argent qui est économisé chaque année par l'État du fait du non-recours sur le RSA. Si on réduit le non-recours, on va mécaniquement augmenter les dépenses sociales, ce qui n'est pas l'ambition affichée de ce gouvernement ni du président de la République, dont on sait qu'il considère que les prestations sociales coûtent un pognon de dingue.
Merci à vous Marie Viennot. Du soleil pour tout le monde dans l'après-midi, température estivale comprise entre 25 et 33 degrés. Cette édition était préparée avec Benjamin Ducy, à la technique Pierrick Monsigny.